I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Podcast is a new radio.
Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. En ce début septembre, des millions de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, font leur rentrée des classes. Certains se rendront à l'école accompagnés de leurs parents, d'autres iront par eux-mêmes, à pied, à vélo, à trottinette, en bus, en train, en mobylette ou en voiture. Et il y en a certains qui, pour faire leur rentrée des classes, commenceront par s'asseoir dans un Airbus A320 direction le Québec. Bon, je vous l'accorde, ils ne feront pas tout ça, en tout cas pas tous les jours. Mais quand même, avouez qu'il faut être sacrément motivé. Et vu le nombre d'étudiants étrangers accueillis ici chaque année, force est de constater que c'est une motivation largement partagée et répandue. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir ce qui peut bien les attirer ici précisément, non seulement au Québec, mais précisément à Québec. Pour cela, je reçois aujourd'hui deux invités. Tout d'abord, Sylvie Bizou, qui est conseillère en attraction et rétention des étudiants internationaux chez Québec International. Elle va tout nous expliquer sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il faut pour faire venir ici et étudier ici plutôt qu'ailleurs. Et si à l'occasion de cet enregistrement, je rencontre Sylvie pour la toute première fois, ce n'est pas tout à fait le cas de ma seconde invitée. Magali a quitté la France et la région parisienne il y a un peu plus de 2 ans pour venir reprendre ses études au Québec et entamer une reconversion professionnelle. Une décision lourde de conséquences puisque cela a aussi entraîné l'expatriation de ses 3 enfants et de son exceptionnellement gentil et incroyablement modeste mari, dont l'humilité légendaire qui me caractérise m'oblige à taire le nom. Enfin bon, puisque vous insistez, c'est bien de moi dont il s'agit. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors Sylvie, si tu veux bien, on va commencer par toi, puisque je sens qu'il faut que je laisse quelques secondes à mon épouse pour se remettre de la fin de l'intro. Sylvie, on a brièvement entendu ta voix. Si je ne me trompe, t'as un accent qui est pas très québécois.
Tout à fait, ouais. Je viens de la France. On est arrivés, nous aussi, en famille, il y a 3 ans, avec mon mari et mes 2 garçons, de 11 et 14 ans à l'époque, pour pareil, immigrer parce qu'on avait l'envie de montrer autre chose à notre famille, à nos enfants, une autre culture et donc gros changement. Mais il y a 3 ans.
Ah bah oui, effectivement, gros changement. Et alors, visiblement, ça t'a tellement plu que t'as décidé que ton job du quotidien, maintenant, ça serait d'aller récupérer des étudiants à l'étranger et de t'assurer que tout se passe bien ici et de les retenir, puisque j'ai quand même bien noté dans l'intitulé de fonction, conseillère en attraction et rétention. Hein, vous ne bougez plus les étudiants, vous restez là et tout. Tout ça chez Québec International. Est-ce que tu peux me présenter rapidement ce qu'est Québec International?
Oui, tout à fait. Donc, Québec International, c'est l'agence de développement économique de la région de Québec et de ses environs. On est un organisme à but non lucratif et puis on a vraiment pour mission de soutenir le développement économique de la région de Québec, puis son rayonnement national, international. Pour ça, on a plusieurs mandats, dont celui d'attraction et de rétention des étudiants internationaux, on est d'accord, mais c'est aussi de favoriser la croissance des entreprises, c'est aussi de soutenir les secteurs de force, d'attirer dans la région des talents internationaux, que ce soit au niveau travailleurs ou étudiants. Et puis, on le sait, ici, il y a une rareté de main-d'œuvre. Donc oui, on a envie de les retenir aussi, mais dans un premier temps, on a envie de les attirer, de leur montrer à quel point c'est une aventure exceptionnelle d'immigrer au Québec et que il y en a pour tous les goûts.
Tu disais rareté de main-d'œuvre, même ici, précisément, à Québec, parce qu'on est quand même sur la capitale de la province, c'est une grande ville. Alors, on peut imaginer qu'il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre un petit peu partout dans la province. C'est très grand, hein, le Québec. Mais à Québec aussi, il y a des manques.
À Québec, énormément. On est à un taux de chômage d'un peu plus de 3% aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important le nombre de main-d'œuvre qui manque ici. Attirer des étudiants internationaux, c'est une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre ou à la rareté de main-d'œuvre, comme on dit, parce que les gens sont formés ici, ils arrivent déjà avec une expérience de travail parce que souvent, bah, comme toi, Magali, j'imagine, tu avais déjà travaillé en France. Ils ont donc une expérience professionnelle préalable. Ils arrivent, ils sont formés ici, donc ils sont diplômés avec des études québécoises ils apportent leur multiculturalisme, ils apportent toute leur envie de s'intégrer ici et d'apporter leurs compétences. Donc, ça peut être une des solutions qui est peut-être la moins connue ou la moins exploitée, une des moins exploitées, je vais dire, par les entreprises.
Mais probablement l'une des plus efficaces, parce qu'effectivement, sur le peu que j'ai pu constater depuis les 2 ans qu'on est nous ici, c'est vrai que parfois, l'adaptation pour quelqu'un qui a... parler de mon cas particulièrement, quelqu'un qui a déjà un profil et une carrière, qui arrive ici, contrairement à Magali, moi je vais pas du tout chercher à changer de carrière, je vais rester dans mon profil, sauf que les habitudes de travail, même les mots utilisés, les manières de procéder sont différentes et que l'adaptation est pas forcément facile. J'imagine que quand on a été formé ici, qu'on est passé par les études à Québec, forcément l'adaptation derrière... ça glisse.
L'adaptation est plus facile et puis en plus, pour un étudiant international, il a le droit de travailler pendant ses études. Donc, il a la possibilité déjà de s'intégrer dans le monde du travail. Il a une autorisation de travailler 20 heures par semaine la plupart du temps pendant l'année scolaire et puis 40 heures pendant les vacances, qui est quand même super intéressant pour lui parce que ça lui permet aussi, la vie est quand même à un coût ici au Québec malgré tout, et ça lui permet d'avoir un petit pécule supplémentaire, de pouvoir découvrir le monde du travail, de pouvoir s'intégrer et puis souvent de pouvoir rester dans la même entreprise pendant ses études et à la fin de ses études, et donc vraiment de s'intégrer. C'est une vraie manière de s'intégrer ici au Québec, le marché du travail et le monde du travail.
Alors ça, c'est un vrai point sur lequel je voudrais t'interroger, puis je pense que je vais demander l'avis à ma chère étendre derrière. Effectivement, quand on a ce type de permis de permis d'études, on a l'autorisation de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Ok, on a l'autorisation, mais est-ce qu'on peut raisonnablement réussir ses études tout en travaillant 20 heures par semaine, ou est-ce que c'est juste administratif?
C'est une très très bonne question que tu poses. C'est vrai que nous, on conseille toujours aux étudiants de ne pas travailler à hauteur de 20 heures par semaine. C'est le maximum qu'ils peuvent faire. Mais on sait que pour avoir un beau taux de réussite au niveau de ses études, parce qu'il y a une intégration au niveau des études, et puis je pense que Magali en parlera un peu plus, parce qu'il y a des vraies différences d'éducation et d'enseignement ici, on conseille entre 8 heures et 12 heures pour des étudiants pour travailler pendant l'année scolaire, pour ne pas se mettre à mal au niveau des études.
Magali, alors tu m'en veux pas, hein, je vais t'appeler par le prénom à chaque fois parce que en général je l'appelle pas comme ça si vous voulez, mais ça fait bizarre. Oui, mais bon, il y a des gens qui nous écoutent quand même. Toi, tu te serais senti de travailler 8, 12, 20 heures par semaine en plus de tes études ?
Moi non, parce qu'en fait, on a énormément de travail. Normalement, on n'a pas de travail à la maison à faire, sauf que en réalité, on a toujours du travail en retard parce qu'on n'a pas le temps de tout faire en classe. Donc du coup, on travaille à la maison et en gros, les 8-12 heures, on les fait sur notre travail personnel. Donc on n'a pas le temps de travailler pour gagner de l'argent. Et en fait, moi, j'avais plein de copines en classe qui ont commencé à travailler et elles ont lâché parce qu'elles pouvaient pas. Elles n'arrivaient pas à cumuler le travail de l'école plus... un salaire, quoi, donc
plus la vie de famille, plus c'est ça, vie en famille, ouais. C'est sûr que ça peut être,
c'était pas possible,
oui, parce que en plus, bah toi, puisque tu es mariée avec monsieur, ça veut dire que tu as aussi un certain âge, donc une famille et ainsi de suite. C'est pas forcément le cas de tous les étudiants qui arrivent. Alors justement, c'est quoi le profil des étudiants qui sont recherchés? J'ai bien vu, puisque on en est l'exemple type, tout le monde peut venir, mais c'est quoi le profil? Tu voulais dire quelque chose?
Je voulais juste rajouter qu'en fait les seules personnes qui travaillaient en dehors de leurs études sont des Québécoises. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont entre la 17 et 25 ans qui, elles, travaillent 8 à 12 heures par semaine en plus de leur...
Ça, c'est culturel, ouais. Tu as raison, ouais. C'est une vraie culture.
Mais toutes les étudiantes étrangères de France ou d'ailleurs, elles n'arrivaient pas à cumuler les deux, quoi.
Ouais, ça c'est une particularité très française aussi, on le remarque, c'est que les Français, ils travaillent beaucoup moins que les étudiants, autres étudiants internationaux, je vais dire. Les étudiants québécois, c'est une particularité d'ici, c'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, les Québécois, ils travaillent. Ils travaillent pour avoir de l'autonomie, et puis moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, mes enfants, c'est eux qui me demandent de travailler parce qu'ils savent que ben ils vont pouvoir aller faire des courses, ils vont pouvoir aller s'acheter être un peu plus autonomes et pas avoir à demander à papa et maman, donne-moi 10 dollars pour que je puisse aller m'acheter une crème glacée ou une glace. mais c'est sûr que c'est une vraie possibilité d'intégration pour des étudiants internationaux. Effectivement, quand tu dis il y a beaucoup de travail personnel à faire, on y reviendra peut-être après, mais c'est sûr que c'est pas la même manière de fonctionner ou d'étudier qu'en France. Puis pour des étudiants qui sont plus jeunes, sincèrement, on le conseille parce que c'est une vraie possibilité d'intégration. On sait qu'il peut y avoir des soucis d'intégration pour des étudiants qui viennent ici à l'université parce que les Québécois ont souvent tendance à se regrouper, ils se connaissent, ils sont ensemble dans les groupes de travail, etc. Donc pour des étudiants internationaux, de s'intégrer dans la faculté ou dans l'établissement, il peut y avoir un enjeu. Par le travail, ça va être une autre possibilité. Par le sport, c'en est une autre. Par la culture, ça peut être une autre manière aussi. Mais c'est une vraie possibilité d'intégration et puis de découvrir le monde du travail qui est complètement différent, comme le monde des études est complètement différent. Oui. Tu dis, il y a beaucoup de travail personnel. C'est clair que la manière de fonctionner dans les études, c'est pas du tout la même. Il y a beaucoup plus de pratiques, il y a beaucoup plus de groupes de travail, il y a beaucoup plus de travail personnel justement en amont parce qu'il y a moins de théorie.
Je pense que ça dépend aussi de la formation qu'on fait parce que je pense qu'une formation très pratique, comme en pâtisserie, je pense qu'il y a pas de travail personnel à la maison. Donc là, c'est quand même, je pense que c'est plus simple de travailler à l'extérieur. Mais quand on fait un travail, moi j'ai fait une formation de décoration d'intérieur. Là j'avais quand même beaucoup de travail à la maison à faire et du coup j'avais pas le temps de.
Il y a peut-être quelque chose d'autre au-delà de l'aspect culturel. Alors je le vois en tant qu'observateur parce que du coup j'ai été observateur pendant un an et demi pendant sa formation. Le fait d'être immigrante et d'être associée à un permis d'études. Peut-être qu'elle se mettait aussi plus la pression et peut-être que les étudiants étrangers se mettent plus la pression et donc se disent « Non, je vais peut-être pas me disperser en allant travailler à côté parce que moi, mes études, faut pas que je les rate. J'ai 18 mois de permis d'études. Ça fait 16 mois. Qu'est-ce qui se passe si je dois repiquer ?» Il y a peut-être ça aussi qui fait que l'accès à l'emploi est peut-être plus compliqué.
C'est une possibilité que les étudiants se mettent plus de pression. Ça, c'est sûr et certain parce qu'ils n'ont pas le choix de réussir. Effectivement, ils ont un délai... une deadline de leur permis d'études, donc il faut qu'ils réussissent leurs études dans ce momentum-là. Mais je dirais que ça n'empêche, il y en a pour certains, ils n'ont pas le choix que d'aller travailler à côté. parce que financièrement ils ont cette demande là et cet enjeu là de se dire bah il faut que je gagne un peu d'argent à côté. Puis je peux vous dire qu'on a des témoignages d'étudiants qui travaillent de nuit malgré leurs études. Donc c'est aussi un enjeu personnel et je pense que chaque situation est différente, mais c'est un vrai conseil qu'on donne aux étudiants de, même si c'est que pendant les vacances, de au moins essayer de trouver du travail pendant les vacances pour découvrir ce monde du travail et se créer du contact, créer un réseau. Ici, beaucoup de choses marchent par le réseau et par le relationnel.
On en a déjà parlé, ouais.
Et donc, c'est vrai que le fait de pouvoir découvrir le monde du travail, de rencontrer des gens dans l'entreprise, va forcément, à un moment donné, permettre aux étudiants de créer des contacts et peut-être de trouver leur bon emploi à la fin des études s'ils souhaitent rester.
Je reviens à la question que je te posais tout à l'heure. Quel est s'il y en a un, le profil des étudiants que tu, dans ton boulot, et que Québec International, d'une manière générale, cherche à faire venir?
On n'a pas de profil type, parce que on travaille pour tous les niveaux d'études, que ce soit professionnel, comme Magali a fait cette année, ou depuis 2 ans, comme des niveaux techniques, au niveau collégial, ou du niveau universitaire. Donc ça veut dire que c'est des étudiants prioritairement francophones ou francophiles, parce que on le sait ici, ils sont obligés d'avoir un niveau de français B2 en général pour commencer, pour être admis dans un établissement d'enseignement, ce qui implique c'est un vrai gage de réussite d'avoir un niveau de français correct, parce qu'il y a une épreuve uniforme de français dans certaines filières à passer à la fin. Et c'est souvent un enjeu de réussite des études de pas avoir le bon niveau de français. Donc, on insiste vraiment là-dessus, nous, en amont, pour dire aux gens, aux étudiants qui voudraient venir, formez-vous en français, parce qu'il y a un vrai enjeu de réussite de vos études.
Puis là, on est à Québec.
Oui, on est à Québec.
Sur Fais-tu Fred, depuis le lancement du balado, à plusieurs reprises, on a parlé du côté cosmopolite de Montréal, voire des problèmes de langue et de la sauvegarde du français qui est un véritable enjeu à Montréal. On est à Québec ici, c'est pas du tout pareil. À Québec, pour le coup, on parle vraiment français. C'est rarissime de parler une autre langue, en tout cas dans le milieu du travail, et ainsi de suite. Donc oui.
Ouais.
Puis, enjeu majeur,
et puis même des étudiants, nous on fait des activités de rétention et ou de réseautage en tout cas avec les étudiants, puis on a des étudiants qui ne parlent que anglais, leur langue maternelle est l'anglais, parce qu'ils sont en postdoc ou dans des études supérieures et que là dans la recherche souvent c'est en anglais, et ils ont fait ces activités de réseautage, et puis en rencontrant les employeurs en ne parlant qu'anglais, ils se sont rendus compte que c'était un vrai blocage et qu'ils allaient vraiment falloir qu'ils apprennent le français. Ça n'empêche pas qu'ils ont des opportunités professionnelles, mais que s'ils veulent rester ici à Québec ou dans les environs, il va falloir vraiment travailler sur le français. Donc c'est sûr que ça fait partie de nos prérogatives quand on rencontre des candidats potentiels. C'est sûr qu'après, ça peut être des étudiants qui sont en fin d'études, ça peut être des étudiants souvent ici pour rentrer, que ce soit au niveau professionnel ou collégial, c'est entre 11 et 12 années d'études. Si je parle pour les Français, ça veut dire après le CP en France.
Oui. Okay.
Donc à partir de 17-18 ans, on peut déjà vouloir venir étudier au Québec, soit encore une fois au niveau collégial, soit au niveau professionnel si les métiers du professionnel nous intéressent, soit faire des études universitaires. Ça peut être de la reconversion professionnelle, c'est un moyen d'arriver au Québec. Je pense que
c'est ça.
Nous c'était pareil, on n'avait pas trop de choix pour venir au Québec. Bon, on n'a pas choisi la piste des études, on en a pris une autre, mais ça peut être une piste pour arriver au Québec si on n'est pas dans un des métiers en manque de main d'œuvre ou dans un des métiers ciblés par l'opération main d'œuvre, et que ils ont pas besoin de nous entre guillemets. On n'a pas vraiment de cible spécifique, on est ouvert à. Vous avez envie de reprendre un métier, venez découvrir les métiers du Québec et venez découvrir les études au Québec.
Peu importe l'âge, c'est ça.
Peu importe l'âge,
c'est
ça, ouais,
c'est important, parce que vraiment, c'est aussi ça qui m'a fait venir, parce que je me suis dit, ouais, vu l'âge que j'ai, reprendre les études. Et puis en fait, ici, c'est pas un problème, quoi. Donc,
pas du tout. Ouais.
Franchement, c'est.
Ouais.
Et puis on le sent bien quand on est à l'école, qu'il n'y a pas. Les profs, ils ont le même âge que moi ou même plus jeune et ça se passe très bien, il y a pas de problème, quoi. Donc
ça c'est un vrai, c'est un vrai beau témoignage pour nous, parce que souvent on le dit, et puis moi j'ai vécu l'expérience avec mes enfants, de ce rapport entre les professeurs et les élèves. parce que tu étais une élève ou une étudiante en reprenant tes études. Et c'est, ça a rien à voir avec tout ce qu'on a pu vivre en France, que ce soit moi en tant que maman ou en tant qu'élève ou
ça même. Ça a pour... rien à voir. C'est, les profs sont tellement bienveillants au Québec, c'est franchement, ça, pour moi, c'était un vrai bonheur.
Puis moi, j'ai souvenir, et puis là, je parle de mon témoignage à moi, de ma première réunion parents-prof avec mes enfants qui ont démarré au secondaire ici, et de mon fils qui avait quelques problèmes en mathématiques. Pourtant, Dieu sait qu'en France, il était dans une école privée et qu'il avait des très bons résultats scolaires. Et le professeur qui regarde mon grand et qui me dit « mais il peut venir me voir quand il veut, à midi, je suis là pour lui ». Puis qui tutoyait, mon fils qui le tutoyait. Puis je regarde Nel, je dis « bah pourquoi tu vas pas le voir ?» Il me dit « bah j'ose pas ». En France, on n'ose pas aller voir ses professeurs, souvent, pas tous, parce que je veux pas faire une généralité non plus. Alors que là, les professeurs étaient vraiment à l'écoute. Mmh. Tous les midis, ils peuvent aller les voir, leur poser des questions. Il y a des temps vraiment spécifiques pour eux. Mmh. Et puis, ouais, il y a cette vraie bienveillance de la part des professeurs et de l'envie d'aider qui est différente. Puis,
ils sont encourageants. Vraiment, c'est vraiment une autre façon, d'éduquer parce que c'est l'éducation quoi, donc
de l'enseignement presque plus que de l'éducation,
ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est vraiment une autre façon d'enseigner et moi je trouve que c'est tellement plus agréable quoi.
Ouais. Oui ils sont là pour aider l'étudiant et puis il y a pas non plus de hiérarchie ou de mise en défaut si l'étudiant pose une question au professeur et que le professeur se sent pris à partie entre guillemets ou dit ah j'ai OK, t'as peut-être raison. Il va lui se remettre en question, il va pas dire finir la conversation ou dire non, c'est moi qui ai raison. C'est vraiment il y a un vrai échange entre les élèves et le professeur. Puis il y a un dernier témoignage que moi j'adore, c'est mon grand justement quand il est arrivé. Moi je raconte toujours que je lui ai acheté une blouse pour faire de la physique et de la chimie quand on était en France, qu'il était en 6e. On est parti, il avait fini sa 4e. La blouse, elle était dans le placard depuis la 6e, elle avait pas bougé. Si, il est arrivé, premier cours de chimie, puis il a fait une explosion, il a mis dans un bécher, il a mélangé des solutions, ça a fait poum. Puis il est rentré avec des yeux, mais immenses, en disant « Maman, c'était génial !» J'ai dit « Bon, c'est du pratique. »
C'est ça.
Il voit vraiment ce qui se passe. Oui, j'ai vu la théorie, mais je vois en pratique réellement ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est génial.
Ça change tout.
Ouais, ça change tout.
Donc si j'ai bien compris, gros avantage, les profs et la relation prof-élève est absolument super sympa. Ceci étant dit, quitter l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud pour venir étudier au Québec, tout ça parce que les profs sont sympas, c'est peut-être un petit peu court, non?
Mais c'est un des points. Ils parlent français.
Putain, je vais me faire engueuler.
Ils parlent français. Au Québec, on parle français.
Ok, deuxième argument, au Québec, on parle français. Quels sont les autres intérêts et notamment quel service, quel accompagnement? Parce que mine de rien, changer de pays, c'est quand même, enfin c'est un gros changement, mais si c'est que pour quelques années, enfin le but en plus c'est qu'il reste. Donc qu'est-ce que Québec International et qu'est-ce que tu leur proposes pour la rétention, toi? On a fait la partie attractivité, maintenant la partie rétention.
L'attraction, on pourrait aussi en rajouter. C'est aussi, pour finir, c'est vraiment, les études sont quand même reconnues à l'international ici au Québec, ou au Canada. Les établissements sont quand même reconnus comme quoi c'est des bons établissements d'enseignement. Le niveau sécuritaire, je pense que vous l'avez vécu, puis vous venez de Paris, peut-être c'est encore pire que moi qui venais de Nîmes, mais déjà là. On a quand même une ville sécuritaire ici et puis moi j'ai une charge mentale qui est quand même 10 fois moins élevée qu'en France sur comment ça se passe pour mes enfants dehors. Québec a été reconnue la 4e ville meilleure, la meilleure ville pour étudier, donc c'est quand même pas rien au niveau mondial. Donc c'est la collaboration, on en a parlé, mais c'est sûr qu'il y a des établissements avec la fine pointe de la technologie. On a des centres de recherche là à l'Université Laval qui sont juste assez exceptionnels. On sait que les établissements, ils investissent énormément dans leur technologie pour pouvoir apporter des établissements et des salles et du matériel qui soit vraiment à la hauteur pour les étudiants. On peut parler des installations sportives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sport-études ici.
C'est vrai, je fais juste un bémol, mais les installations sportives, évidemment, je les ai pas utilisées, mais c'est probablement le truc le plus visuel quand on arrive. C'est-à-dire que toutes ces installations sportives que vous avez vues dans les séries américaines ou dans les trucs comme ça avec les grands les grands terrains de football américain, j'entends le football qu'ils font ici, pas le vrai football, le voilà, mais ouais. Mais oui, il y a aussi du soccer derrière, parce que c'est très, ouais, on voit tout de suite qu'on est dans un autre monde et que le sport est vraiment véritablement quelque chose de reconnu et pas un gymnase planqué derrière des bâtiments voilà pour
Et c'est ouvert et gratuit. C'est moi, c'est ce qui a été quelque chose d'assez exceptionnel, c'est de me dire, mes enfants veulent aller faire un foot, le terrain de foot, il est ouvert. Ils veulent aller faire un tennis, le terrain de tennis, il est ouvert. Puis on prend la raquette, on va jouer. Il n'y a pas d'enjeu de vandalisme, il n'y a pas d'enjeu, il faut que je demande au gardien ou il faut que je paye parce que je sais que ça va se faire abîmer. Non, tout est à disposition des gens. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et les établissements misent là-dessus aussi, c'est-à-dire que ça fait partie des établissements, ces équipements sportifs. Et ils le mettent à disposition et de la population et de leurs élèves. Puis il y a énormément de sport-études renommées ici aussi qui permettent à des étudiants, si on a envie, j'en sais rien, on est basketteur ou on est même footballeur européen, on a envie de venir jouer au soccer ici. Il y a des sport-études dans chaque établissement qui vont permettre à l'étudiant, s'il a envie de progresser dans son sport, de continuer à faire son sport ici, tout en suivant ses études avec des aménagements d'études. Moi, mes enfants sont en sport-études. Ils travaillent de 8h à midi le matin à l'école et puis ils ont l'après-midi pour faire du sport. En France, ça aurait jamais été ça. Ils auraient fait du sport, ils auraient fait 8h midi, le sport à midi, 14h, 16h, 17h à l'école et puis le sport l'après-midi. Donc, il y a vraiment un aménagement pour eux, pour qu'ils y arrivent. C'est plus condensé, les études, mais... Donc ça, c'est une vraie opportunité pour les gens qui aiment le sport. Et puis, il n'y a pas que dans le sport. Hein. Moi, je parle du sport parce que je connais, mais il y a aussi en musique, oui, en culture, il y a vraiment plein de choses. Le taux de chômage, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais le taux de placement des élèves, c'est entre 80 et 90% des élèves sont placés, voire 100% dans certains domaines ou formations. Donc, il y a très, très peu de gens qui, à la fin, une fois qu'ils sont diplômés, ne trouvent pas de travail ici.
Le taux de chômage, ça a de quoi faire rêver. Hein. Je vous donne les chiffres, on a donné un tout à l'heure, mais ils viennent tout juste de tomber. Le taux de chômage pour tout le Canada, c'est 4,9%. Pour le Québec, c'est 4,1%. C'est la meilleure province, la province la plus performante au Canada. Et pour la ville de Québec, tu nous as dit que c'était 3%.
Un peu plus de 3%.
Voilà. comment dire, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent du côté des palais ministériels en France, ça a de quoi faire rêver. Peut-être qu'on doit pouvoir trouver ça dans les livres d'histoire au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle en France, mais on a toujours connu du chômage à 8 ou 9% minimum. Ça change tout quand même de pouvoir étudier, venir étudier en se disant, je suis certain d'avoir une job, on dit une job ici, une job à la sortie des études, ça change tout.
Ça change tout mentalement, ça change tout parce que tu sais que tu peux te consacrer à tes études comme tu disais, même si tu fais des piges pendant les vacances ou même si tu travailles un petit peu pendant tes études, mais tu sais qu'à la sortie, t'es tranquille. Moi, je sais que j'ai un bac plus 5 en France, mais je savais pas si je trouverais du travail à la fin. Là, mes enfants, j'ai aucun enjeu de me dire, ils vont jamais trouver de travail. Je sais que quoi qu'ils fassent, ils vont trouver du travail.
Oui, pour le coup, avec un 10 mots de chômage comme ça, ne pas trouver du travail, faut le vouloir, quoi. Ça devient un choix. Et c'est vrai que, on l'a vu, avec Magali, c'est que le Québec, la province en tant que main, et le Canada d'ailleurs, encourage véritablement le passage de l'étude au travail, puisque le permis post-diplôme, alors autant le permis d'études à récupérer, à faire, c'est de l'administratif, c'est un peu longué et chiant, on va dire. Par contre, le permis post-diplôme, alors là, ça va à une vitesse.
C'est automatique. Hein,
c'est exactement, c'est automatique. T'as ton diplôme, tu nous prouves que t'as ton diplôme, bim, t'as ton permis, et va travailler avec des belles durées qui permettent d'aller voir loin.
Souvent, c'est la même durée que son permis d'études, en fait.
Moi, c'est même plus long.
À partir du moment où ton permis d'études fait 2 ans, tu vas avoir souvent un permis. Souvent, je dis, parce que c'est pas toujours le cas, donc je voudrais pas que...
si c'est 1800 heures de formation, c'est 3 ans de post-diplôme.
Tu vas avoir 3 ans de permis de travail post-diplôme, donc ce qui te laisse le temps d'avoir une expérience de travail conséquente pour ensuite, si tu veux rester, faire ta demande de permis de résidence permanente. C'est sûr qu'après, c'est des papiers, mais... C'est quand même un des enjeux qu'on peut ressentir chez les étudiants, de se dire ça peut être lent. C'est-à-dire que là, t'as fait peut-être 2 ans d'études, il y en a c'est 3 ans, ensuite t'as 2 voire 3 ans de permis de travail post-diplôme, et au bout de 2 ans, tu vas pouvoir passer par le programme de l'expérience québécoise diplômé pour faire ta demande de résidence permanente. Puis tu sais qu'avant que t'aies ton CSQ, donc ton certificat de sélection du Québec et ta résidence permanente, t'en as encore pour 2 ans à peu près. Donc ça peut faire une longue durée. Donc ça peut être un des enjeux que les étudiants retrouvent quand ils viennent ici, quand ils veulent vraiment s'installer, de se dire ah, mais c'est long pour être avoir la résidence permanente. Nous sans
des
passer par
ans,
là,
ouais, faut 5 ans. Ouais, c'est ça.
Ouais, on compte un peu plus nous, mais nous ça nous a coûté 8 ans hein, pour de vie pour avoir notre résidence permanente. Coûter entre guillemets parce que c'est quand même long, on vit dans l'incertitude et puis que c'est une incertitude de pas avoir un...
C'est surtout ça, c'est l'incertitude. Mmh. S'il y a un truc qui est un peu difficile à vivre, c'est ça, parce que dans l'absolu, le fait qu'ils disent, si on te dit de départ, bah voilà, va falloir attendre 8 ans. Ok, bah, j'attendrai 8 ans. Mmh. Après tout, ça permet aussi au Québec, au Canada, de savoir si ce sont des gens qui vont s'installer durablement. Et je comprends qu'on ne donne pas des résidences permanentes, voire des citoyennetés comme ça à tour de bras au bout de 3 semaines. Sauf que là, c'est 8 ans, mais tous les 18 mois, 24 mois, il y a l'épée de Damoclès
c'est ça.
De ravoir. Et puis, si on a un travail ou quelque chose... situation que j'ai vécu personnellement il y a pas si longtemps que ça, à 24 heures près, c'était tu démissionnes et voilà, donc ça peut être oui, c'est effectivement un enjeu, d'où l'intérêt aussi d'être accompagné.
C'est ça, d'où l'enjeu, parce que la personne qui, donc Magali a un permis d'études, la personne qui va l'accompagner, son conjoint en l'occurrence, va avoir un permis de travail ouvert qui va lui permettre de travailler pendant toute la durée de son permis d'études. Puis de même, une fois qu'elle va faire sa demande de permis de travail post-diplôme, ça va t'octroyer un permis de travail ouvert pour toi. Donc c'est une vraie sécurité pour la famille de se dire ben, il y en a au moins un des deux qui travaille. Et puis comme on le disait tout à l'heure, si tu veux pas travailler... Ben, il y a vraiment peu de chances que tu ne travailles pas ici, à moins que tu ne veuilles pas travailler. Et je vais dire aussi que les salaires sont quand même avantageux, les possibilités d'avancement. Moi, j'ai recommencé ici en tant qu'agente administrative. Aujourd'hui, je suis rendue conseillère. Oui, mon expérience était peut-être pas reconnue au départ, mais j'ai progressé à une vitesse que j'aurais jamais progressé en France.
Ouais.
C'était juste irréel pour moi, cette possibilité-là d'avancer. Puis je remercie des entreprises comme Québec International. Je suis pas là pour remercier, mais
c'est vrai que
mais
moi,
ils m'ont donné ma chance.
Ça aussi, ouais, les échelons montent très vite ici. Il suffit qu'on s'intègre bien. Et...
Pardon.
Mais c'est pas grave.
Je sais plus ce que je disais.
Qu'on s'intègre bien. Voilà.
Qu'on s'intègre bien. Et puis après, on monte assez vite d'échelons.
Et il y a des belles opportunités. Il y a des réelles opportunités. Le taux de chômage étant tellement bas, même si tu restes pas dans la même société, tu vas avoir d'autres opportunités ailleurs. Donc c'est un vrai point positif en plus que j'apporterais, c'est ces salaires avantageux et cette possibilité d'avancement rapide que moi j'ai jamais vu en France et que j'ai jamais connu autour de moi ou pour moi-même.
Mais c'est vrai, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'intérêt de travailler aussi pendant les études. C'est aussi d'appréhender ce qu'est le milieu du travail québécois, qui est très différent, effectivement, qui est très très différent,
très peu d'hiérarchie,
plus pragmatique, la hiérarchie ou en tout cas avec une hiérarchie on va dire
moins
très différente,
horizontale, on peut dire.
Des rapports, des enjeux de rapports humains aussi qui sont très différents,
totalement.
Voilà,
ouais.
Ça change tout et ça peut lever beaucoup d'incertitudes ou d'inconfort qu'on peut imaginer en disant oui mais après mon diplôme qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a compris comment ça marchait, on peut y aller plus sereinement, parce que bah comme toi, on peut entre guillemets recommencer au bas de l'échelle ou sur un premier poste, mais se dire ouais, c'est pas grave, j'ai pas tout perdu. Ça, dans 3-4 mois, je vais choper une promotion.
Il y a des possibilités.
Pour peu que je travaille bien.
Bien
évidemment,
sûr.
J'imagine que t'as pas trop mal de te débrouiller, mais pour peu qu'on travaille bien, voilà, ça fonctionne. Ça change complètement tout. Donc, c'est vrai que c'est bien de découvrir ce marché du travail qui est pas... quand on en parle, on a souvent l'impression que ça se limite, les différences se limitent à un CV qui, ici, est un CV anonyme. Voilà, on met pas de photos, des choses comme ça. Mais ça, c'est peanuts. Et les vraies différences, elles sont au quotidien. On n'appréhende pas du tout les choses de la même chose. Question pratique. Imaginons, je vais faire c'est pas de la politique fiction, enfin, je sais pas, de la fiction tout court. Imaginons que j'ai 19 ans. Ne ris pas.
Elle a rigolé quand même.
Ouais. Ouais. Ça, j'en connais une qui va rentrer à pied. Imaginons que j'ai 19 ans, que je viens d'écouter cet excellentissime balado et que je me dis, oh putain, mais c'est absolument là-bas qu'il faut que j'aille étudier. Ok. Ben, je fais quoi?
Tu fais quoi? Eh ben, tu viens sur le site Québec en tête, donc qui est un portail d'information que Québec International a créé, où il y a énormément d'informations pertinentes pour les gens qui veulent venir étudier ou travailler au Québec, où il y a des informations sur nos initiatives de recrutement. Donc nous, on organise ce genre d'initiatives avec des établissements d'enseignement. L'objectif étant effectivement de mettre en avant certains programmes d'études, certains domaines, et puis on a en ce moment 5 domaines bien ciblés par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, pour essayer de recruter des étudiants internationaux. Et puis, une fois que tu as fait ton marché, entre guillemets, en fait, sur tous les programmes d'études proposés par nos établissements d'enseignement, à tous les niveaux, professionnels, techniques ou universitaires, tu vas pouvoir créer ton profil sur une plateforme de gestion de candidature qu'on a mise en place, postuler ou en tout cas dire « moi, je suis intéressée par ce programme d'études dans cet établissement-là ». Et te mettre, on va donc te mettre en contact avec l'établissement qui va regarder ton profil, dire ok, il a les prérequis nécessaires, il a le nombre d'années d'études correspondant, il a s'il y a besoin des mathématiques, fait les mathématiques en France, et ensuite l'établissement te propose ou non un entretien et te propose ou non d'aller plus loin en prenant contact avec toi, soit par courriel, soit différemment. Ça sera au choix de l'établissement d'enseignement t'orienter vers les démarches à suivre en fait pour la suite de ton processus.
T'as dit qu'il y avait 5 grands domaines qui avaient été identifiés par le ministère de l'intégration. Je crois que tu les as cités un petit peu tout à l'heure, mais je veux bien qu'on se repose dessus 2 secondes. Les 5 grands domaines prioritaires pour venir étudier ici.
Qui correspondent à l'opération manœuvre, c'est l'enseignement, l'éducation. Donc éducation, c'est éducation à la petite enfance, éducation spécialisée. Tout ce qui est génie, donc ingénierie, parce que c'est tout ce qui est ingénieur. Tout ce qui est, même pas que génie, ça peut être des techniciens, des technologues en génie civil ou des techniciens en génie civil, en génie industriel, etc. La santé, on est bien d'accord. Tout ce qui est technologie de l'information, évidemment, et puis toute la formation professionnelle. Donc les 5 domaines y sont ciblés, puis tous les programmes d'études en formation professionnelle sont ciblés et il y a de la demande parce que il y a des enjeux de main d'œuvre ici au niveau professionnel.
Formation professionnelle, on va venir avec le cas de Magali un peu plus en détail. Mais imaginons toujours que j'ai 19 ans. Tu veux dire quelque chose?
Moi, j'avais une question.
Ah, bah si t'as une question, vas-y, pose la question.
Il n'y a pas un salon, parce que moi, j'avais été recrutée comme ça, un salon en France où, pour le recrutement dans les...
Dans les établissements, ouais. Il y a des salons effectivement qui, pendant la pandémie, ça s'est plus fait.
Ah, parce que moi, c'était avant la pandémie.
On l'a fait en virtuel.
Ah, moi, j'ai fait avant la pandémie puisque je suis arrivée.
Fait tout en virtuel. Après, il y a de nombreux salons qui existent, c'est sûr et certain. Nous, on va aller en France avec Québec International et des établissements en février, fin février.
Ah, ça va reprendre.
Ouais, ça va reprendre en présentiel. Et puis il y a d'autres organismes qui organisent ce genre de salon aussi. Les établissements peuvent aller par eux-mêmes dans des salons français. Qui sont présents régulièrement.
C'est aussi là qu'on voit qu'il y a un vrai besoin, un manque de pénurie et une vraie envie d'ailleurs, parce que les établissements vont vraiment, ils mettent quand même toute une équipe qui prend l'avion, ça coûte de l'argent, tout ça et tout, pour aller en France et dans d'autres pays, hein, aussi en Belgique, en Suisse, dans le Maghreb, tout ça pour recruter des étudiants et donc des futurs travailleurs. Enfin, c'est il y a besoin, mais il y a aussi envie. Et
puis le Québec fait rêver, je pense. Nous, c'est un pays qui nous a toujours fait rêver. Oui, c'est francophone, comme tu le disais tout à l'heure.
Et puis les gens sont gentils.
Ouais.
Donc
ça, je confirme.
Mais c'est aussi pour ça qu'on est venu, nous.
Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une vraie bienveillante personne.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Je te disais, si on imagine toujours que je suis dans ce cas, que j'ai 19 ans et que, bon, maintenant j'ai compris, je suis allé sur la plateforme de Québec International, Québec en tête, en l'occurrence, et que j'ai levé le doigt, j'ai identifié quelque chose et j'ai lancé mon processus. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a une aide ou quelque chose, un accompagnement, une fois qu'on est arrivé? Parce que bah, le Québec, tu l'as vécu, on l'a vécu tous les trois. Il y a deux, trois différences, à commencer par une température hivernale qui, je ne sais même pas si on peut appeler ça une température.
C'est frette, quoi.
Oui, c'est frette. Je devrais donner ça comme nom à mon podcast. Mais il y a aussi les questions de transport, les questions de banque. Hein, c'est... parle du quotidien, mais voilà. Est-ce qu'il y a un accompagnement, quelque chose qui est, ou un suivi qui est proposé?
Alors, il y a un suivi même avant, en amont, c'est-à-dire pour les aider dans leur démarche d'immigration, pour leur donner des tuyaux sur quelles démarches ils ont à faire, comment ça va se passer, sur la culture d'enseignement même, parce qu'il y a une vraie différence de culture d'enseignement, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, on essaye de faire beaucoup de séances d'information, justement, pour les aider là-dedans. Et même avant d'arriver, effectivement, on va faire des séances d'information aussi sur le système bancaire, sur, oui, l'hiver, on en parle déjà avant, même là, tu vois, on fait déjà des webinaires, des séances d'information sur « Venez étudier au Québec », on en parle. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser l'hiver. Oui, il fait froid. Oui, il y a de la neige. Mais tout est fait pour que tu puisses vivre correctement. Je sais que moi, à Nîmes, quand il y avait 2 millimètres de neige, tout était arrêté. Ici, il y a 3 mètres de neige et puis tu continues à rouler et puis t'as pas d'enjeu. À l'université Laval, il y a des souterrains entre les différents campus là pour pouvoir te promener même en hiver. Donc, une fois que t'es bien habillé, comme on dit souvent, puis maintenant, je commence vraiment à le dire, faut pas le subir, l'hiver, il faut le vivre, il faut aller dehors, il y a plein d'activités à faire, il y a plein de choses à découvrir en hiver qui sont juste exceptionnelles. Il y a le carnaval de Québec, il y a des balades en raquettes, il y a du ski de fond, enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est une vraie belle, saison. Ça dure un peu longtemps, c'est juste le... Mais je le dis doucement, mais ça dure un peu longtemps. Mais il faut les prévenir. Je pense que quelqu'un de prévenu va, voilà. C'est sûr que ça fait partie du quotidien. Mais on sait que quand on vit au Québec, on vient pas pour la chaleur à 40 degrés. Même si là, aujourd'hui, il fait vraiment chaud.
Ouais.
Hein, on est d'accord. Mais, on sait que ça ressemble plus à un temps de Bretagne.
Oui, avec 4 vraies saisons.
Ouais.
Le seul petit bémol, effectivement, c'est que l'équilibre des saisons est pas très respecté. On a un hiver qui va faire entre 6 et 7 mois et un automne qui, de mon point de vue, est la plus belle de toutes les saisons. C'est une tuerie à quel point c'est beau l'automne au Québec, mais qui dure 2 semaines. Voilà. Donc c'était
le printemps qui est sympa aussi, qui dure pas très longtemps, mais où tu vois la rapidité de la nature à dire vite, 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 faut vite que je sorte parce que c'est maintenant.
On sent que la nature est comme les humains, c'est-à-dire qu'au sortir de l'hiver, elle est tellement à bout, comme ils disent, comme on dit ici. Faut vite, voilà. Dès qu'on sort de l'hiver, on voit tous ceux qui ont des maisons avec des piscines qui remplissent les piscines et tout, comme s'il fallait conjurer le sort. Et puis dès que l'hiver commence à pointer le bout de son nez, tout le monde met les décos d'hiver, les décos de Noël, parce que bon, paradoxalement, on a hâte que ça revienne.
Mais pour continuer dans ce que je te disais, c'est sûr qu'on organise beaucoup de séances d'information, même quand ils sont arrivés. Bon, déjà, les établissements ont aussi leurs accueils spécifiques pour les étudiants. Chaque établissement, logiquement, fait en sorte d'accueillir correctement l'étudiant. Mais il y a on offre des consultations avec des avocats aussi, si jamais il y a un besoin, qui sont gratuites. Toutes nos initiatives sont gratuites. Tiens, je tiens à le préciser. Tout ce qu'on fait pour les étudiants internationaux, c'est gratuit. L'objectif, c'est vraiment de les aider dans leur intégration. Donc, on a des activités aussi pour les aider à s'intégrer dès qu'ils arrivent. Alors, il y a d'autres organismes que Québec International. Là, on travaille en partenariat avec des banques, avec des organismes en employabilité qui vont justement soutenir les étudiants ou les nouveaux arrivants, parce que quand on vient en famille, c'est pas que les étudiants qu'il faut soutenir. Et puis nous, une fois qu'ils sont sur place, justement pour les aider à trouver du travail, on va organiser des activités de maillage et de réseautage professionnel, soit pour la fin de leurs études, soit pour pendant leurs études. Donc on a plusieurs activités, immersion pro, c'est on va visiter des entreprises. L'objectif étant de comment ça se passe le monde du travail, ce que tu disais, c'est complètement différent. On a des salons de l'emploi inversé où c'est l'étudiant qui est face au recruteur, mais c'est lui qui mène l'entrevue entre guillemets en disant bon, parlez-moi de votre entreprise.
Ce qui correspond bien au marché du travail québécois où l'une des grandes différences, c'est que le rapport de force entre l'employeur et l'employé est complètement inversé par rapport à ce qu'on peut connaître en France ou même en Europe en général. Ici, c'est l'employé qui fait la faveur à l'employeur de venir lui accorder son travail quotidien. Ouais. Ça change tout.
Puis la dernière activité qu'on a mise en place, c'est le championnat des emplois où là, on a créé une activité récréative entre sportives. Le matin, c'était course d'orientation et tournoi de volley pour les étudiants et les recruteurs. Donc, ils se mettaient ensemble dans une équipe. Puis c'est nous qui avions créé l'équipe, donc ils se connaissaient pas. Donc, les étudiants avaient été formés à la course d'orientation avant, donc ils étaient obligés de prendre le lead par rapport aux recruteurs. Donc, apprendre à se connaître avant, puis l'après-midi, entrevue d'embauche. Et la plus belle récompense, c'est d'entendre des employeurs nous dire bah, « Cette personne-là, si je l'avais pas rencontrée le matin, j'aurais pas regardé son CV. » Parce que je l'ai rencontrée humainement, et puis ben ça a matché alors que le CV était pas fait forcément à la québécoise parce que on l'avait pas donc voilà, c'est des belles initiatives qu'on organise vraiment pour les mettre en relation et les mettre en lien.
Tu parlais tout à l'heure de l'importance du réseau ici, c'est une manière de faire vivre son réseau. Une fois de plus ici quand on parle de réseau, le réseau c'est pas simplement LinkedIn et ce que vous pouvez imaginer même si c'est important, mais le réseau c'est aussi la personne que vous croisez en allant faire votre épicerie dans un club de sport ou ainsi de suite. Toutes les occasions sont bonnes et l'humain est toujours mis en avant. Sylvie, j'ai une dernière question pour toi avant de passer à l'expérience de Magali. Tu as parlé de l'aspect financier. Alors, j'ai bien compris, Québec international, tout est gratuit. Oui. C'est un bon postulat, j'aime bien. Les études en général, pour ceux qui vont venir ici, est-ce qu'ils doivent s'attendre à des prix d'études plus chers que ce qu'ils auraient eu en Europe, moins cher, à peu près pareil, est-ce que c'est variable, est-ce qu'on a une règle à leur donner?
Il y a une règle à leur donner, c'est que pour les Français, ben, il y a une entente entre la France et le Québec qui fait que les étudiants français, si c'est à l'universitaire, vont avoir le prix des étudiants canadiens. Si c'est au niveau collégial ou professionnel, il y a une réelle entente, donc c'est le prix des étudiants québécois. Donc c'est un vrai avantage parce que le coût est vraiment moindre et que il y a une vraie facilité pour les Français. Go les Français, venez. ça revient au même que des études en France en fait. Hein, si tu viens ici, oui, t'as le billet d'avion, ouais, mais le coût est vraiment le même, donc ça va être le billet d'avion à dépenser. Et tu vas avoir une expérience internationale. C'est sûr qu'après, on est dans l'Amérique du Nord, donc les études au niveau universitaire peuvent être plus chères, mais encore une fois, pour les Français ou les Belges, parce que les Belges aussi ont cette entente-là au niveau universitaire, il y a des vrais beaux tarifs. Mais c'est un peu plus cher que la France, même au niveau universitaire.
Faut appréhender ça dans un tout, puisque derrière il y a l'employabilité, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'autres coûts, mais il y a aussi des possibilités de revenus. Faut vraiment voir ça. Et justement, on va passer de la théorie à la pratique. Bonjour vous, on se connaît.
Bonjour. Allô.
Est-ce que tu peux me parler de ton histoire, j'entends évidemment sur un plan d'immigration, hein, et ton projet, le projet que t'as entrepris, pourquoi venir au Québec, pourquoi te partir dans une reconversion professionnelle, c'est quoi cette histoire en fait?
Alors pourquoi? Parce que je voulais changer de carrière professionnelle.
Tu faisais quoi avant?
Avant j'étais auxiliaire de périculture en crèche, ce qu'on appelle d'ici une garderie. J'ai voulu changer de travail pour raison médicale.
Ouais. Aussi.
Et en fait, j'ai voulu me convertir dans la décoration professionnelle intérieure. C'est un métier qui m'intéressait parce que j'avais déjà fait une formation en France, mais qui n'était pas reconnue. Donc, j'ai pas pu trouver de travail en France à cause de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas aller au Québec, parce qu'on voulait aussi changer de vie. Et on connaissait le Québec parce qu'on était venu une fois en voyage et puis on a bien aimé. On s'est dit Allons au Québec, c'est une formation qui est gratuite. Vu mon âge, je peux la faire. Donc voilà, c'était l'opportunité. Et puis
c'était l'opportunité, mais question con, est-ce que tu aurais pas pu faire la même formation en France, dans une autre ville, quitte à changer, voilà, on pouvait déménager et ainsi de suite. Mais
j'aurais pu la faire en France, oui, effectivement. Mais après, je me serais retrouvée certainement avec des plus jeunes que moi. Parce qu'en formation professionnelle adulte, je sais pas, c'est surtout des écoles privées en France. Mmh. Je voulais changer de mentalité. Je n'avais pas envie de me retrouver avec des Françaises spécialement en formation.
Moi, j'ai l'impression que c'était surtout ça. Parce que tu n'aurais pas repris cette formation en France, principalement pour des questions de mentalité.
C'est ça, ouais, voilà.
Parce que c'est pas évident. On approche tous les deux de la cinquantaine bientôt. C'est pas évident de reprendre des études à ce niveau d'âge là. On peut se sentir jugé et ainsi de suite. Le sentiment que j'ai, c'est qu'en France, tu serais jamais lancé. Alors au Québec, par contre, zéro problème, quoi.
Oui, zéro problème, parce que je savais que déjà il y a beaucoup de tranches d'âge dans la même classe. Parce que dans ma classe, on était la plus jeune avait 17 ans et la plus âgée, elle devait avoir 55 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une grande tranche d'âge et de plein de nationalités différentes. Et en fait, on s'est toutes bien entendues. Il n'y avait pas de jugement. On était toutes là pour la même chose, pour apprendre et puis pour vivre cette expérience. Donc non, c'est
ça te semblait naturel.
Oui.
Je rajouterais, c'est ça qui moi me semble le plus important, c'est pas de jugement. Puis quand tu arrives ici, c'est un vrai changement de culture. C'est on ne te juge pas. Puis t'es là pour apprendre et puis t'es là pour faire tes preuves. Mais il n'y a pas ce jugement qu'on peut avoir. Ou peut-être qu'on se le met toute seule en France, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, tu l'as pas, ce sentiment.
Ouais. T'es, même dans le milieu du travail, j'ai discuté avec des gens qui ont dû se séparer de salariés ou qui, pour reprendre une terminologie française, se sont fait virer. Mais sans le moindre jugement, c'était juste un constat d'inadéquation à un moment donné entre l'offre et la demande, mais aucun jugement personnel. C'est pas que t'as mal bossé, que tu me plais pas, et ainsi de suite. Non, c'est juste qu'en ce moment, voilà. Mécaniquement, l'opportunité est plus là, mais elle sera peut-être là plus tard. Pas de jugement. Ça change le quotidien et ça rend les choses tellement plus faciles et humaines, ouais, accessoirement. Voilà. Humaine. Ça évite de s'aborder des rapports humains pour pas grand chose. Ouais.
Il y avait aussi le fait que, le fait que je sache que les Québécois sont gentils, je me suis dit que l'enseignement devrait bien se passer aussi. J'avais un peu peur d'être jugé par des professeurs, quoi. Chose qui se faisait beaucoup en France. Mmh. Et voilà.
Et donc, du coup, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais avec les profs.
Impeccable. Moi, j'ai adoré mes profs. J'ai adoré mes profs, j'ai adoré les cours. Franchement, je suis super reconnaissante de ma formation, quoi.
Est-ce que t'as eu le sentiment que c'était adapté à des adultes qui étaient comme toi en reconversion? Moi, j'en sais rien, mais oui, j'imagine oui, que oui. Pour des profs, c'est pas la même chose d'enseigner à des jeunes de 17-18 ans qui, entre guillemets, sont à l'école depuis 10 piges et sont dans un moule. Et des gens comme toi, en plus, avec t'avais plusieurs nationalités, t'avais différentes tranches d'âge, enfin voilà.
Je trouve que c'est bien adapté. D'ailleurs, comme je disais, il y avait des jeunes qui avaient 17 ans, hein, donc il y avait vraiment... on avait vraiment des âges différents et ça se passait très bien pour tout le monde, quoi. Donc, je pense qu'elles ont vraiment une façon d'apprendre qui est adaptée, voilà, à quel que soit l'âge des élèves, quoi.
Ton école, tu l'as trouvée comment?
Mon école?
Bah oui.
Bah bien.
Non, quand je dis tu l'as trouvée comment, c'est-à-dire par quel processus tu l'as identifiée? Parce que au moment où tu as fait la recherche, on était en France.
Ah oui.
Bah, tu n'as pas fait de voyage exploratoire exprès pour venir les visiter. Tout s'est fait. Tu en as parlé brièvement tout à l'heure à l'occasion d'un salon, et puis après tout s'est fait en ligne ou à distance. Quel processus t'a amené à identifier l'école dans laquelle tu as fini par aller et qui visiblement t'a...
Effectivement, j'ai commencé par le salon et puis après, suivant la formation que je voulais faire, j'ai eu plusieurs choix. J'ai eu le choix entre un diplôme d'études professionnelles, donc le DEP, ou faire le Cégep, qui est un niveau au-dessus.
Ce qui est le diplôme collégial, c'est ça?
L'étude collégiale, voilà, c'est ça.
Qui est un niveau au-dessus, mais qui dure plus longtemps. Et donc, j'avais le choix avec plusieurs écoles, et j'ai choisi de faire un diplôme d'études professionnelles qui durait moins longtemps, et que je trouvais beaucoup plus pratique et plus facile pour entrer dans le milieu professionnel. Donc, j'ai choisi ce milieu-là. Et au niveau de l'école, j'ai choisi par rapport à la zone où je voulais habiter. Donc, j'avais plusieurs choix d'école et j'ai choisi, en gros, la plus près de l'endroit où je voulais habiter.
Mais on a tous des critères et puis c'est super important de le dire. Et puis, je rajouterais juste un petit, si tu peux me permettre, j'étais avec une Française la semaine dernière en conversation. Et elle me disait, qu'est-ce que tu me conseilles comme ville? Moi, je cherche une ville qui est pas où il y a pas trop de monde. J'ai dit, mais chaque choix est personnel. Donc moi, j'habite sur la rive sud de Québec parce que mon choix de vie et de famille a fait que j'habite ici, parce que j'avais des demandes spécifiques par rapport à mes enfants. Donc je pense que c'est important de se renseigner avant. Et puis je ferai un rebond sur Québec en tête, parce que sur Québec en tête, ils vont trouver des informations justement sur les établissements, voir où ils se situent. Puis c'est super important en amont de regarder, d'aller chercher la ville, qu'est-ce qu'ils proposent comme activité, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a une bibliothèque, est-ce que si on aime la musique, ils ont des concerts, est-ce que, juste pour voir si ça peut correspondre à des petites choses qui nous rappelleront ou qui nous seront habituelles avec ce qu'on a déjà vécu en amont, en France ou dans un autre pays, mais qui vont nous rassurer à un moment donné parce qu'on se dit, ah, ça je l'aime et puis je sais que je vais le trouver dans le milieu où je vais faire mes études.
Moi, je voulais pas trop loin de mon lieu d'habitation et je voulais que ce soit pas trop compliqué au niveau des transports. Parce que j'y allais en voiture, je me suis dit, l'hiver, si je me tape 2 heures d'embouteillage pour aller...
Les distances sont pas les mêmes qu'en France. Hein.
Donc, j'ai choisi aussi l'école par rapport à ça. Et donc, non, je regrette pas du tout et mon école et le lieu.
Mais est-ce que t'as fait des recherches en amont sur...
Oui, j'avais refait
sur un site internet.
C'est ça,
est-ce que t'as été voir sur Google Maps où
c'était? Je suis allée sur le site de l'école pour voir les formations, même voir les avis.
Ouais, c'est super important.
Oui, parce que je voulais savoir aussi s'il y avait quand même des bonnes appréciations. Donc oui, j'ai quand même fait des recherches sur l'école et puis...
Est-ce que tu as trouvé que les démarches, une fois que tu avais identifié ton projet de reconversion, que tu avais identifié l'école, est-ce que tu as trouvé que les démarches étaient compliquées tant pour toi que pour toute la famille, hein, puisque il a fallu se lancer dans un festival de demande de permis d'études, de permis de séjour, de permis de je sais pas quoi, enfin un festival quoi. Tu as trouvé ça compliqué ou finalement...
C'était long quoi, j'ai trouvé ça long, c'est pas spécialement compliqué, mais j'ai trouvé ça très long, quoi. C'est surtout toi qui t'es occupé des papiers, d'ailleurs, donc, pour te dire.
Eh bien, écoutez, je vais m'auto-interviewer. Et, comment vous dire? En fait, j'ai pas trouvé, c'était très administratif. C'était fastidieux, mais en soi pas très compliqué. Faut juste aimer cocher des cases. Mais en soi, franchement, ça allait. Est-ce que t'as vécu un choc culturel? C'est-à-dire que...
Oui.
Vas-y, explique, développe.
Oui, par rapport au vocabulaire.
Ouais.
Bah oui, parce que faut le dire, hein, au vocabulaire.
Ah oui, c'est vrai. En plus, tu t'es mis à la maison à me parler en pouce et en pied.
En plus, moi j'ai les unités de conversion différentes de France. Donc il a fallu que je réapprenne tout, les pouces, les pieds. Et puis même au niveau du vocabulaire en classe, c'est allô, bon matin, plein de choses comme ça, mais qu'au début on est un peu surpris. Au niveau de culturel, je réfléchis.
Il y a l'accent aussi.
Oui, l'accent.
Parler,
oui,
l'accent. Nous, on a des accents différents.
Au début, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en plus, je trouvais qu'elle parlait vite. Et avec l'accent, j'avais du mal à comprendre. En plus, je suis un peu malentendante, donc ça rajoute une couche de difficulté. Mais
oui, puis en plus, il y a eu le masque entre-temps, puisque tout ça s'est fait sous période de Covid. Donc, il y avait aussi la période
avec le masque.
Avec le masque.
Oui. Ouais. Donc, oui, non, il y a eu plusieurs choses qui sont
accumulées. Ouais,
mais finalement, maintenant, je comprends très bien l'accent québécois. Ils peuvent parler plus vite, ça va mieux.
Mais il y a un temps d'adaptation, on est voilà, d'accord, quel ouais. qu'il soit
les. Et tu te rendais tous les jours à l'école, puisque toi, ton école, comme c'était une école professionnelle et pratique, et effectivement, tu as eu la chance qu'elle ne soit pas fermée. Et donc, tu as fait des cours en vrai, enfin, la plupart du temps, tu as quand même fait quelques cours en visio. Ça va, le déneigage de la voiture, ça se passe bien? Tu es devenue experte?
C'était un peu casse-pied.
C'est Jean-Michel qui fait, c'est ça?
Des fois, elle fait. Ça m'arrivait quelquefois de le faire. Bah, surtout quand je repartais de l'école.
Oui. Parce que. Oui. Pas le choix. Ouais,
c'est ça, ouais.
Des fois, j'étais embourbée avec ma voiture. On est dans la neige, là. J'étais obligée de le faire toute seule, donc.
Ouais, le matin, en général, c'était plutôt moi qui m'y collais, effectivement. C'est un tel bonheur de déneiger la voiture le matin à 7h du mat par moins 30. Est-ce que on sent bien depuis le début, à chaque fois que tu en parles, t'as le sourire, les profs c'était super, on sent que t'as vraiment aimé ta formation au point que t'es devenue fluente en pouce et en pied. Mais est-ce que t'as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses qui quand même te disent ah, pff, bof, peut-être pas, peut-être que j'aurais pas dû. Enfin, est-ce que t'as des regrets, des choses où tu te dis bon, ça aurait pu être mieux, ou des déceptions? Parce que là, depuis tout à l'heure, ça a l'air d'être Disneyland.
Bah non, je réfléchis peut-être mon stage, peut-être parce qu'on fait un stage professionnel d'un mois, et je trouve voilà, il y a juste par rapport à mon stage où j'étais un peu déçue parce que j'ai dû chercher mon stage moi-même. Il faut dire que je me suis mis une difficulté parce que je voulais être proche de chez moi. Donc c'est une difficulté que je me suis mise moi-même, quoi, mais et du coup le stage il m'a pas trop plu, quoi. Mais je trouve ça manquait un peu de plus d'offres de stages un peu dispatchés partout, quoi.
Et moi je trouve que ça revient effectivement à ce que tu parlais tout à l'heure de l'importance de pouvoir travailler malgré tout, parce que moi qui ai été employeur il y a quelques années, franchement prendre quelqu'un pour un mois en tant qu'employeur, au final, quand c'est le cas, on prend que des enfants, d'amis ou de choses comme ça et tout, parce que le temps de former quelqu'un, de lui expliquer, le moment où il va pouvoir commencer à faire quelque chose, c'est le moment de lui dire au revoir. Donc, ça vraiment, c'est beaucoup d'investissement pour très peu d'intérêt. Par contre, si on a pu avoir quelqu'un régulièrement tout au long de l'année, ne serait-ce que 10, 20 heures par semaine, le stage,
D'où l'intérêt de passer par des activités de Québec International qui vont vous mettre en relation avec des employeurs à ce moment-là et essayer de vous créer cette relation-là. Mais je comprends que ça peut des fois être un peu plus compliqué.
Ouais, par contre, ce que je veux dire, c'est que au début, mon maître de stage, il a pas voulu me prendre en stage. Il me dit non, j'ai pas besoin de stagiaire. Et puis finalement, j'ai discuté avec lui de choses et d'autres. Et à la fin, il m'a dit bon, bah, je te prends. Ouais. Deux choses qui n'avaient rien à voir avec mon stage. Et puis finalement, le côté humain
est passé.
Il m'a dit bah, je te prends en stage.
Et voici le moment anecdote de ce balado, puisque je vais vous raconter la scène exactement comment ça s'est passé. Effectivement, je l'ai accompagné à son rendez-vous qui était un entretien qui devait durer 10 minutes. Donc j'étais garé devant, j'ai attendu, me faisant suer comme pas mal. Bah, j'ai mis la radio. Hein, j'ai écouté de la musique et ça durait. Et au bout d'1h20, elle était toujours pas sortie. Mais moi, j'avais plus de musique puisque j'avais plus de batterie et on est tombé en panne. Voilà. Fort heureusement, il y avait un speedy juste en face. Donc voilà, c'était. Mais au final, t'as eu ton stage.
Très bavard.
Pas que les Québécois. Ouais.
Et pourtant, tu es habitué aux gens bavards à la maison. Je parle évidemment des enfants. L'après, ça se passe comment? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que tu es diplômé. Félicitations. Oui. Voilà. Ça se passe comment? Tu as de l'aide de l'école? Tu as encore des relations?
Alors, du coup, j'ai encore des contacts avec l'école, avec certaines profs. voilà, que ça se passe très bien par courriel. J'ai des offres d'emploi des profs. Pour l'instant que j'avais refusé parce que je voulais monter ma boîte. Voilà. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai pas tant que ça de clients, donc j'ai décidé par trouver un autre travail, un autre job. Et je commence qu'au mois de septembre. Donc
félicitations.
Voilà. Je me dis merci. Je me dis que ça va me faire un peu de clientèle, oui, de me faire la main un peu. Puis après, j'aurai peut-être plus de facilité pour ma boîte en tant qu'indépendante. Quoi.
Voilà. Bah, c'est peut-être plus facile effectivement d'être indépendant une fois qu'on a l'expérience québécoise aussi pour savoir comment les choses s'appréhendent, comment les affaires se développent. Pour l'avoir vécu aussi, ça marche pas pareil qu'en
France. C'est pas la même manière, ouais, ouais, de fonctionner au niveau des comptes. C'est pas la même chose au niveau des.
Ouais,
c'est sûr que c'est important.
Et mon patron, il m'a dit qu'il était d'accord pour que je laisse ma carte professionnelle.
Excellent.
Les gens avaient besoin.
Et j'espère qu'après toute la pub que tu viens de lui faire, il va le t'accorder une augmentation d'au moins 30%. Merci monsieur, c'est charmant. Ma famille vous remercie. On ira faire les emplettes en pensant à vous. Il y a combien d'étudiants, Sylvie, qui viennent à peu près tous les ans sur Québec pour relancer leur vie?
Alors, si j'ai pas les chiffres exacts, hein, pour être très clair, mais c'est sûr qu'au Québec, dans la province de Québec, il y a plus de 80 000 étudiants internationaux. Puis l'Université Laval, c'est plus de 6 000 étudiants internationaux à l'année.
Wow.
Donc, il y aura de toute façon, même dans les établissements collégiaux, il y a énormément d'étudiants internationaux. Donc, c'est sûr que vous serez jamais tout seul, français, au milieu d'une
classe. Toi, dans ta classe?
Dans ma classe, on était trois françaises. Ouais, trois françaises.
Ouais, et il y avait pas mal d'autres nationalités.
Et en fait, on était une classe de 23, et après, il y en a plein qui sont partis au fur et à mesure, mais après, on a fini, on était 18, et il devait y avoir une dizaine de Québécoises, c'est tout.
Tu viens de dire un truc, il y en a plein qui sont partis en cours de route.
Ouais. Bah pour des raisons de santé et puis des raisons qu'en fait elles travaillaient, que c'était trop compliqué de cumuler les deux et elles pouvaient pas se permettre de ne pas travailler, donc elles ont laissé tomber les études.
Ça peut être un enjeu, ouais, après, c'est un point, au niveau
point qu'on n'a pas abordé, ça arrive assez souvent, c'est fréquent des gens qui se, parce que moi je me dis putain, se lancer dans une aventure pareille.
C'était des Québécoises, hein, qui ont abandonné.
Ah, d'accord.
Non, c'est des Québécoises qui ont abandonné.
Ça fait partie des écueils, ouais, pour les étudiants, ouais, québécois souvent. Mmh. Il y a le décrochage scolaire parce qu'ils peuvent travailler puis ils gagnent leur vie correctement, donc ils se disent c'est pas la peine que je finisse mes études. Non, sur les étudiants, sur d'autres étudiants, ça peut être un enjeu aussi, des étudiants qui ont, parce qu'on le sait, on demande une capacité financière quand on vient ici au Québec, qui est à valider, donc vous devez fournir vos preuves de compte ou et du coup il y a des personnes, du coup j'ai vraiment parlé à la française.
Ah oui, 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 bon.
Du coup, t'inquiète pas. Ça, du coup on l'a dit tout le temps.
Dans chaque épisode de Fais-tu frette, il y en a au moins 75 et du coup donc
il y a des étudiants qui se retrouvent en situation financière difficile pour X ou Y raison. Des fois c'est pour un problème de santé, parce que bah, les étudiants français, on a de la chance, on a la RAMQ, donc la sécurité sociale québécoise, si on a fait nos papiers français en amont avant d'arriver ici, parce qu'il y en a qui oublient de faire leurs papiers et puis qui se retrouvent ici dans une situation compliquée, donc il y a bien suivre les procédures.
Je me permets juste de mettre un bémol, la RAMQ c'est la sécurité sociale light.
Hein, oui.
Pas voilà. C'est, vous attendez pas à ce que tout soit pris en charge.
Non.
Comme en France, c'est pas comme ça que ça marche.
Non.
Mais par contre, il y a quand même une sécurité. Si vous devez notamment aller à l'hôpital pour quoi que ce soit, ça sera entièrement pris en charge. Et bon, ça veut dire qu'en cas de coup dur, vous êtes couvert. Mais il faut faire les papiers.
Mais il faut faire les papiers en amont. Puis c'est sûr que du coup, il y a des étudiants qui se retrouvent en situation financière compliquée pour un problème de santé. Et pour X ou Y raison, ben un problème aux dents qui peut coûter très cher ici et qui à un moment donné ben n'ont plus ce qu'ils avaient prévu pour payer leurs études, sont obligés de travailler, peuvent se retrouver en situation financière difficile. Ça, on en a régulièrement. Donc c'est sûr que c'est important de pouvoir travailler en amont ou pendant ses études, ou en tout cas de prévoir une somme suffisamment importante pour ne pas avoir cet enjeu-là. Parce qu'on a déjà d'autres enjeux, hein, d'incertitude, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle culture, il y a d'autres enjeux. Donc c'est sûr que si en plus on a l'enjeu financier qui arrive, ça peut être une vraie problématique.
Est-ce qu'en tant qu'étudiant, j'ai le droit à l'erreur? C'est-à-dire, imagine, j'arrive ici, je me suis inscrit en décoration d'intérieur, et puis au bout de 6 mois, je me rends compte que ça me fait suer la vie, la décoration d'intérieur. Mais que par contre, il y a une autre formation qui est en photographie, et je trouve ça absolument génial. Est-ce que je peux assez facilement switcher ou non? T'as signé les papiers pour de la décoration d'intérieur, tu finiras ton cursus en décoration d'intérieur, ou alors c'est retour à la case maison initiale et nouveau dossier, comment ça se passe?
En fait, ça va dépendre si tu changes de niveau d'études ou pas. Si tu changes pas de niveau d'études, c'est juste un petit courriel à faire prévenir les instances fédérales et provinciales que tu vas changer de niveau d'études, voire d'établissement, parce que tu peux aussi changer d'établissement. Par contre, si tu changes de niveau d'études, là, il va falloir redemander parce que ton permis d'études est en fonction de ton niveau d'études. Donc, ça peut être un enjeu. Mais là, on a des consultations gratuites, on a des avocats qui répondent à ce genre de questions. Donc, les étudiants peuvent faire appel à nous en passant par leurs établissements pour vraiment être sûr de la procédure à suivre. Mais ça peut être plus compliqué dans ce cas-là. Puis souvent, comme ton permis d'études est sur la base de tes années d'études que tu as à faire, toi, c'était 1800 heures, donc tu devais avoir 2 ans de permis d'études. Si tu as 2 ans, mais que tu fais 6 mois dans une première formation et puis tu te dis je vais changer, ton permis d'études va pas être valable pour les 6 derniers mois de tes études, donc il va falloir que tu fasses une renouvellement de demande de permis d'études. Donc c'est juste souvent 6 mois avant, nous ce qu'on conseille c'est 6 mois avant la fin de votre passeport, de votre CAQ, certificat d'acceptation du Québec ou de votre permis d'études, regardez, prenez rendez-vous avec un avocat ou avec votre conseiller, votre crié comme ils appellent ça, c'est les consultants réglementés en immigration de votre établissement, pour juste valider la suite de votre dossier, comment ça se passe. Donc, mettez-vous bien en règle avec tout ça.
Magali, dernière question. Si tu rencontres demain quelqu'un de ta connaissance ou pas, qui te dit « moi aussi, j'aimerais bien un jour aller au Québec.
» Je dis « Viens, j'ai de la place chez moi, je t'accueillerai.
J'ai de la place chez moi.
Oui, alors ça m'intéresse parce que moi, j'aimerais bien qu'on en discute avant que t'invites.
L'accueil québécois.
L'accueil québécois, mais pas de problème. Si je peux choisir, je veux bien accueillir québécois aussi. Je suis pas sûr qu'on ait les mêmes critères.
Dans le jardin.
Le concept du chalet au fond du jardin. Donc un enthousiasme la meilleure avocate possible. Sylvie. Même question, si quelqu'un veut venir, mais peut-être plus pragmatique cette fois-ci, quelqu'un s'y intéresse, qu'est-ce qu'il fait pour terminer ce balado et voilà, qu'est-ce qu'il doit retenir?
Bien se préparer en amont, c'est sûr et certain. Moi, c'est ce que je retiens et puis ça me fait plaisir parce que tu l'as dit et puis c'est super important la préparation en amont, de bien rechercher, de bien regarder tous les éléments, de se renseigner, de pas avoir peur de poser des questions en amont et puis de pas croire qu'on arrive en terrain conquis, parce que c'est un peu des fois peut-être le défaut des Français de se dire on est meilleur, nous on sait faire ci, nous on sait faire ça, moi à votre place je ferai comme ça. C'est un nouveau pays, depuis des années, des centaines d'années ils vivent sans nous Donc du coup c'est important de se dire je suis là pour réapprendre, je suis là pour découvrir ce pays et je suis pas là pour dire ça doit fonctionner comme ça. Donc comme moi j'avais l'habitude que ça fonctionne avant. Donc je pense que c'est les deux conseils que je donnerais et puis une toute petite chose que j'ai oublié de préciser, je m'excuse Jean-Michel, c'est que notre prochaine initiative de recrutement là pour voir les programmes d'études dont je parlais là, s'ils vont sur le site Québec en tête, ils vont être déçus les gens parce que actuellement, il y a des webinaires, des séances d'information qui se mettent en route, mais ça va démarrer le 6 septembre avec tous les programmes d'études et tous les établissements qui vont mettre en avant les programmes d'études pour pouvoir aller chercher un petit peu ce qui se passe.
L'adresse exacte?
www.quebecentete.com.
Il faut dire combien de temps à l'avance faut s'y prendre aussi, parce que le temps d'avoir c'est ça, le temps de entre le projet et le temps d'avoir tous les papiers, il y a quand même un laps.
Non, c'est pas grave, t'as qu'à bouler le micro, c'est pas de souci.
Qui se déroule.
Vas-y, finis ta phrase, y a pas de souci.
Entre le moment le début du projet et le moment où on va partir de France, il y a quand même un laps de temps. Et il faut quand même le prévoir à l'avance, quoi. On peut pas partir dans 6 mois, quoi.
Combien de temps ça t'a pris?
Au moins 1 an, quoi.
C'est ça? Ok. En famille, je dirais, c'est entre 8 mois et 12 mois. Pour un étudiant qui vient tout seul, ça peut être 6 mois. Un bon 6 mois de préparation.
Ouais, mais un bon 6 mois quand même.
Oui. Voilà. De toute façon, rien que les démarches d'immigration, ça peut durer 6 mois. Donc, on s'imagine qu'avant, il faut quand même aller faire des recherches.
Vous l'aurez compris, il y a plein de bonnes raisons de venir étudier puis travailler ici. Il y a plein de bonnes opportunités. Renseignez-vous bien et prenez, faut s'y prendre un petit peu à l'avance, quoi.
Ouais. Hein? Et mais puis, c'est le fun, quand même.
C'est un vrai projet sur du long terme.
C'est ça, sur du très long terme. Merci beaucoup à toutes les deux.
Bienvenue.
Elle est très bonne.
Alors ça je suis sûr que tu l'avais préparé depuis au moins 48 heures. Bienvenue. Bienvenue. De toute façon, tu rentres à pied.
On va aller à la maison, Magali.
Excellente journée et à très
merci
bientôt.
Ciao, ciao. Merci.
Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, FAISTUFRE2TE, à commercial. gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.